Vous direz, Elisabeth, Marseillaise a partagé son cœur, au moment, ça m'a fait du bien. Voilà, c'est quand c'est dans le ventre, là, quand elle sort ça, ça fait du bien. Voilà, que son, le couple, le premier couple, Adam et Ève, bon Dieu poursuit toujours pour cela, voilà, dans le ministère. Donc, on va prier pour eux, et puis leur laisser la parole, pour qu'au travers de Dieu, tu puisses nous bénir. Nous prions ça, s'il te plaît. Et à la fin, c'est Papy Claude qui va être notre porte-parole par rapport à ce moment-là. Rapidement. Seigneur, nous voulons ensemble te bénir, Seigneur. Pour ce couple, Seigneur, tu vas commettre leur séparation qui ont été utiles à la contre-pôle, Seigneur. Seigneur, tu les coupes aujourd'hui dans le corps de Christ, Seigneur. Seigneur, pour apporter la richesse aussi, Seigneur, au corps que tu es, Seigneur Jésus. Nous voulons en retour encore bénir, Seigneur, ce couple, Seigneur, ce couple missionnaire, Seigneur. C'est toi qui as libéré ce mandat sur leur vie, Seigneur. Pour que, comme tu allais de lieu en lieu, faisant du bien, Seigneur, tu as bien voulu les envoyer ici, Seigneur, à Lyon. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons magnifier ton nom. On s'accorde à la prière de Papy Claude.
Oh, Jésus. Seigneur, je veux te remercier pour ce frère et cette sœur que tu nous donnes.
Amen.
Je te remercie parce que c'est toi qui les as mis à part. Et Seigneur, dans le chemin qu'ils ont parcouru avec toi, tu nous les as menés jusqu'ici. Seigneur, qu'ils soient ton porte-parole ce matin.
Oui, Seigneur.
Seigneur, que ce que tu veux nous apprendre, ce que tu veux nous dire, vienne de toi. Seigneur, utilise ton enfant ce matin.
Alléluia.
Et que, Seigneur, ce soit des bénédictions pour chacun de nous, des exhortations, des choses par lesquelles nous pouvons repartir et grandir avec, Seigneur, être nourri. Seigneur, je te prie pour tous les deux en tant que couple et demander que ta main soit encore sur eux, sur le chemin que tu as tracé devant eux et que ton esprit les accompagne, au nom puissant de Yeshua. Amen.
Amen. Gloire à Dieu.
Amen.
Donc, je tiens quand même à préciser que le frère Josué Bimoy, il est pasteur aussi aux côtés de mon président de la FEPEF, Christian Caron, la Sergi Pontoise. Voilà, donc il vous donnera un peu son témoignage aussi en tant qu'universitaire. Bon Dieu n'a pas parachuté sur la terre comme cela, et puis selon la météo, il va, c'est sur le Mistral, il va là, non? Voilà, mais il a une carrière aussi, voilà, en Christ. Voilà, donc il est d'abord serviteur de Dieu.
Amen.
Voilà. Donc, donc je tenais à préciser cela, qu'il a son Antioche, qui est Serge Pontoise. Il a son pasteur, qui est Christian Caron. Gloire à Dieu. Et puis, au niveau de la FEPEF aussi, il y a sa mère Peter Schmitt aussi, qui l'accueille aussi très souvent. Donc, il nous a fait beaucoup de bien aussi à l'ordre du boulot pastoral. Puisque le Seigneur encore le bénit.
Merci.
Le pasteur, je viens. Vous avez la parole.
Je vous salue tous au nom de Jésus.
Amen.
On va vous chanter un petit cœur. C'est le chant qui est chanté par un artiste congolais. Je suis menacé de rhume. Je chante comme ça. Comment te dire ce que je ressens? Et on va le chanter avec mon époux. Ce serait notre balao, hein, notre bonjour à l'église.
Hein. Comment te dire ce que je ressens? Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. De mon âme pour des larmes qui traduisent mes ciments. Que ma vie soit une fleur, un parfum de toi, Seigneur.
Que ma vie
soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me réponds, fais de moi ce que l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toute chose en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta voix. Je voudrais habiter chez toi. Ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de mon odeur. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras.
Amen. Merci, maman. On peut aller s'asseoir. Et si tu aimes Jésus, tu peux l'acclamer. Là, vous avez acclamé pour vous-même. Quand on acclame, tu dis. Merci Seigneur. Alors il y a un temps pour chaque chose. Le culte est un repas complet. Nous sommes venus, nous avons prié pour remercier Dieu. Vous savez que depuis ce matin, beaucoup qui sont allés dormir dans leur lit hier sont morts ce matin. Connaissez-vous le nombre de morts de par le monde? Même à Lyon. Voilà. Donc, nous remercions Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a accordé.
Amen.
Et c'est une grâce de nous réunir ce matin. Je lui dis une grâce parce que dans certains pays, je pense à certaines régions de la France, de l'Europe plutôt, comme en Ukraine, et dans certaines régions d'Afrique, comme en Centrafrique et dans la capitale, il y a impossibilité de se réunir dans certains quartiers pour louer le Seigneur ce matin. Et c'est une grâce que nous puissions avoir l'opportunité d'être rassemblés aux pieds de Jésus comme Marie pour recevoir cette bonne part que personne ne peut nous ôter. Amen. Voilà, tourne-toi vers ton frère et dis-lui, mon frère, je suis content de te voir aujourd'hui dans la maison du Seigneur. Mais c'est timide, hein? Je vais vous montrer une manière plus dynamique de le dire. Levez votre main droite comme ça. Ou votre main, les deux mains. Alors, posez une de vos mains sur votre voisin. Suivez ce que le pasteur vous dit de faire. Voilà, vous posez comme ça. Merci. Voilà, c'est pas grave. Et vous le regardez dans les yeux. N'ayez pas peur de regarder dans les yeux de votre voisin. Faites ce que je vous demande. Je n'ai pas dit de faire du bruit. Hein. Je vous ai dit de poser votre main sur votre voisin et de le regarder dans les yeux. Et je veux du silence. Et une fois que vous l'avez regardé dans les yeux, vous dites, si c'est un frère, vous dites mon frère. Si c'est ma soeur, vous dites ma soeur. Allons-y. Mon frère, écoutez le reste de la phrase. Dites mon frère, ma soeur, je vais te chanter un petit cœur. Voilà. Alors moi, je vais chanter le petit cœur. Vous écoutez et après, vous lui chantez ça. Regardez ce que je vais chanter à mon frère Hubert. Je suis content de te voir aujourd'hui, pasteur.
Je suis content de te voir aujourd'hui, pasteur. Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui.
Tout le monde, on y va.
Je suis content de te voir aujourd'hui,
mon frère.
Je suis content de te voir aujourd'hui,
ma soeur.
Que Dieu te bénisse. Je suis toi, je te vois aujourd'hui.
Je suis content,
je suis content de te voir aujourd'hui.
Mon frère,
je suis
content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse.
Je suis content de te voir aujourd'hui.
Alléluia! Alléluia. Mais je n'ai pas besoin du micro.
Ah
hein.
Ben voilà.
Vous savez qu'en Afrique, on n'a pas le micro. Hein? J'ai une voix qui porte. Je vais me débrouiller sans micro.
On entend bien.
Alors, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Amen. Avant d'écouter la parole, on est déjà content. On dit au Seigneur, merci. Je dis oui à cette parole que tu vas me transmettre. La prédication, le partage ou le témoignage n'est autre chose qu'une lettre que notre Père écrit à chacun de tes enfants. Il y a la disposition du cœur qui compte avant d'écouter la parole. Qu'est-ce que mon papa m'a écrit dans sa lettre aujourd'hui? Et cette parole va te faire vivre aujourd'hui, demain, et éternellement.
Amen.
Car la terre passera, mais la parole de Dieu restera éternellement.
Amen.
Et que tu dises amen ou pas, c'est vrai.
Amen.
Ça ne peut être que comme cela. C'est pourquoi la disposition du cœur compte beaucoup.
Amen.
Et donc avant de prêcher, je vais encore chanter un petit cœur.
Amen.
Que vous connaissez. Ce cœur dit, je dis oui, oui. Oui, je dis oui, 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 je dis oui, Seigneur,
je dis oui, Seigneur, je dis oui, oui, oui.
Tu vas dire oui à la parole de Dieu, pas à ma parole, hein? Donc tu vas encore répéter ce chant, on y va.
Je dis oui.
Yeah. terre. On sent que j'allais dire Yéda, Yéda, Yéda. Chantons, n'aie pas peur. Yéda, Yéda, Yéda. Yéda, Zapa. Yéda, Zapa. Yéda. Notre Dieu est tellement content que nous puissions lui dire oui avant qu'il nous parle. N'aie pas peur de la volonté de Dieu, elle n'est que agréable, parfaite pour toi. Les intentions de Dieu pour nous ne sont que bonnes. As-tu déjà vu un père qui veut du mal à l'enfant qu'il veut mettre au monde? Non, il désire cet enfant. La volonté d'un père normal, pas d'un père fou, est que son enfant, quand il naît, soit en bonne santé, puisse croître, puisse réussir dans la vie. As-tu déjà vu un père qui n'attend qu'une chose, que son enfant naisse et qu'il le tue? Non. Si tel est le cas, c'est un papa qui est malade. Il est fou. Et on doit, l'assistance publique doit pouvoir lui reprendre l'enfant et le confier à des gens normaux sur le plan médical. Non, n'aie pas peur de la volonté de Dieu. Quand Dieu veut te parler, il ne parle pas pour t'accuser. Il ne parle pas pour te juger. Il parle pour fortifier ta foi. Amen. Et tu dois désirer comme du miel, plus que du miel. Tu dois désirer comme du lait, plus que du lait. Eh bien, la parole de Dieu. La lire, la méditer chaque jour, eh bien, de ta vie. J'ai eu à cœur, et nous en avons parlé à Grenoble, avec votre pasteur, mon frère, et je vais y revenir encore ce matin là-dessus. Je voudrais que ce matin, nous puissions méditer la parole de Dieu sur l'échange que Dieu a eu avec le premier homme né de femme. Connaissez-vous le premier homme né de femme? C'est une question à 100 euros. La personne qui le trouve le dit vite. Quel est le prénom? C'est Caïn. Et Abel. Vous avez entendu la question?
Jésus.
Il y a Caïn, il y a Jésus. Le premier homme né de femme. C'est qui? Voilà. C'est Eric qui a trouvé. Vous pouvez acclamer pour Eric. Hein? Qui a dit Caïn? Mais Phoebe, parce que celui qui a dit Caïn se lève ou celle, je ne sais pas moi. Es-tu muette?
Non.
Ah ben lève-toi. Voilà, on l'acclame. Alléluia. C'est à 100 euros, tu me donneras ton numéro de compte, je ferai le virement. Je ferai le virement depuis Bangui. Hein? Alléluia, c'est vrai. Le premier homme né de femme, eh bien, c'est Caïn. Adam et Ève ont été faits directement par Dieu, et Dieu a soufflé, et ils sont devenus des êtres humains. Et dans Genèse 1, 2 jusqu'à 3, on voit déjà l'histoire qui est née entre Dieu et l'homme qu'il a créé, Adam et Ève. Jusqu'à la désobéissance, ce sont les trois premiers chapitres. Mais à partir du chapitre 4, il est écrit que Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'homme. » Non, avec l'aide de l'Éternel, dit Ève. Elle enfanta Caïn, et après, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Je voudrais que nous soulignions le mot irrité. Il fut très irrité. Jusqu'à maintenant, depuis que le premier homme, Caïn, est né, on ne parle pas de Dieu. Dieu ne vient pas discuter avec eux comme il avait l'habitude de discuter avec son père Adam. « Adam, Adam, où es-tu ?» Et il va dire, « Voilà, je me cache. Pourquoi tu te caches ? Parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu ? As-tu mangé le fruit qui se trouve, le fruit défendu ?» Mais là, depuis que ce bébé est mort, est né, il n'y a pas l'intervention encore de Dieu. On parle de son père, on parle de sa mère Ève, et on parle des deux enfants, et on nous dit tout de suite, dans le verset 3 et 4, que les deux ont offert des sacrifices à leurs parents, et c'est l'offrande du petit frère qui a plu aux parents. Et parce que l'offrande du petit frère a plu aux parents, eh bien le grand frère est très irrité. Il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu encore. Et nous arrivons au verset 6. L'intervention de Dieu, c'est ça qui va porter sur notre message ce matin. On voit, soudainement, l'Éternel dit à Caïn. Pourquoi ? Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Ne nous faisons pas d'illusions, peuple de Dieu. Le premier thème que Dieu a abordé avec l'homme né de femme, c'est-à-dire comme vous et moi, nous sommes nés de femme. À part Adam et Ève, on n'a jamais vu un homme dire « Je suis sorti comme ça, ex nihilo. » Et même si on ne dit pas qu'on est né d'un homme, on est né au moins d'une femme. On passe par le ventre d'une femme. Même avec les nouvelles techniques aujourd'hui, ça passe encore par le ventre d'une femme comme réceptacle où on doit injecter quelque chose. Et c'est comme vous et moi aujourd'hui, le premier dialogue que Dieu va avoir avec l'homme n'est pas de dire « Alors, es-tu heureux en tant que laboureur ? Tu n'es pas orphelin ?» Tu as un père, tu as une mère, ton père s'appelle Adam, ta maman s'appelle Ève, tu as même un frère, tu n'es pas seul. Comment vas-tu ? Eh bien, Caïn, non. Dieu va commencer par une interrogation. C'est étonnant, hein ? Son premier contact et son premier dialogue avec l'homme, pourquoi tu es irrité ? Pourquoi ? Et dans la suite, cette irritation mal gérée de Caïn va l'entraîner non seulement à s'énerver, à jalouser ton frère, mais à le tuer. L'histoire de l'homme commence par le meurtre. Une histoire fratricide. On tue son frère. Ce n'est pas une histoire d'amour. Comprenons-le. On a l'impression qu'aujourd'hui, eh bien, avec tout ce que nous voyons, où les hommes s'entretuent entre eux, il y a tellement de meurtres ici ou là. On parle de guerre, on parle de ceci, on parle de cela. Mais l'histoire est un itinéraire. C'est pourquoi il est tellement important de savoir que les deux premiers hommes nés de femmes ont commencé pas par une fraternité exemplaire, ils ont commencé par quelque chose dont on doit se méfier. nous avons dans notre héritage ancestral, eh bien, le meurtre. Nous avons dans notre héritage ancestral, eh bien, un comportement, un type de réaction qui s'appelle irritation. Je suis allé voir un monsieur dans le travail, parce que chacun son métier. Les deux sœurs qui sont venues m'accueillir ce matin, et je les bénis, mes deux petites filles là, ressemblent à mes filles, mes deux filles aînées. Voilà. Il y en a une qui travaille assistance dentaire, et l'autre, Espérance, travaille où là? Aide-soignante, voilà. Chacun son métier. Mais ce monsieur que vous allez voir, il s'appelle Monsieur Robert. Son travail, c'est de définir les mots. Et je lui ai dit, mais la première question que Dieu pose à l'homme, c'est irriter. Ça veut dire quoi, irriter? Et voilà la réponse que Monsieur Robert m'a donnée à Paris. Il vit à Paris, hein. Je ne vous dis pas l'arrondissement. Et voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Monsieur le pasteur, le mot irriter, c'est un mot latin, irritare, qui veut dire grogner, gronder comme un chien. Vous voyez, il m'expliquait, et Monsieur Robert a un chien à Paris, il me dit, voyez mon chien là, quand vous êtes arrivé, bon, il n'est pas raciste, hein, mais il vous a vu, comme il ne vous connaît pas, il a fait, il y a quelque chose qui commence à l'irriter, mais c'est qui? Est-il invité par mon patron Robert? Mais qu'est-ce qu'il vient là? Mais heureusement que j'ai cogné à la porte. Parce que le chien a été apprivoisé comme ça. Si j'étais rentré comme ça, il allait me prendre pour un voleur et puis il pouvait me mordre. Mais même avant même qu'un chien te mord, il va commencer par grogner. Il va s'avancer et en fonction de ta réaction, il va confirmer eh bien, son grognement là-bas en lui, son irritation, et ça peut se terminer par une morsure mortelle. Même. C'est comme cela. Et M. Robert me dit que ça vient du mot latin irritare, grogner comme un chien. Et ça a beaucoup de synonymes parce que Dieu n'utilise pas un mot comme ça par hasard. Il a pour synonyme agacé, contrarié, cabré, courroucé, crispé, énervé, enflammé, hérissé, horripilé. Je vous dis, c'est son travail, hein, Monsieur Robert. Hein? Furibond. Il m'a dit, l'irritation, c'est la colère, la nervosité, l'énervement, l'agacement, l'emportement, la rage, le mécontentement, l'acrimonie. Et c'est ça qui caractérise la société aujourd'hui. Dans nos banlieues, dans nos villes, et même dans l'église. Les gens sont susceptibles. Tout nous énerve. Tout nous contrarie. À Paris, on dit, on ne kiffe plus rien maintenant. Tout nous énerve. Il n'y a plus de kiff. On kiffe rien, on surkiffe rien. On est surénervé, on est courroucé, agacé, cabré. Horripilé, on est énervé, on est mécontent. Et je voudrais que ce matin, puisque c'est la direction du Saint-Esprit, nous puissions y réfléchir. Voyez, souvent, le texte dit quelque chose ici. Un fils qui est né, les parents s'en occupent. Il n'a aucune raison d'être irrité, Caïn. Il a même un métier, laboureur. C'est un chasseur habile. Son frère aîné, c'est le commencement de la société, il n'est même pas seul. Il y a une vie de famille. Nulle part il est écrit qu'il souffrait de famine ou de problèmes. Il a tout pour être heureux. Et il est l'aîné. Au lieu de dire, tiens, papa et maman m'ont gardé, par reconnaissance au moins, je prends la primeur eh bien, de mon travail de laboureur, j'apporte aux parents. Non, il est écrit, c'est au bout de quelque temps qu'il va prendre quelque chose pour venir dire, tiens, un petit cadeau, papa et maman. Alors que son frère, qui est éleveur, a pris les prémices de son élevage comme pour exprimer sa reconnaissance envers ses parents. En venant, on devait prendre le TGV samedi. Notre deuxième fille nous a rendu visite vendredi. Elle dit, tiens maman, une petite dîme. Voilà. Peut-être qu'elle se souvient qu'au bout de ses 21 ans, on n'a plus soin d'elle, on ne sait pas. On n'a pas besoin de son argent. Mais, aussi petit que soit-il, c'est le geste qui compte. C'est tellement important. Tellement important. Vous pouvez avoir 100 000 euros dans la poche et quelqu'un vient vous dire « Voilà 2 euros du fruit de mon travail. » Mais vous êtes touché. Ça n'a rien à voir avec votre compte en banque, mais le geste qui compte. Et son frère va donner cette primeur, eh bien, à Dieu. Et lui, il va être irrité, nous dit le texte. Même pas irrité. Caïn fut très irrité, très courroucé, très agacé, très contrarié. Il est enflammé, hérissé, il est nerveux. Il s'emporte. Il est mécontent. Il a de l'acrimonie. Et tout ça va l'entraîner à commettre un meurtre. Eh bien, sur son frère. Il va même répondre de façon impolie. Eh bien, à Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? Quelle question bête tu me poses? Ça s'est très mal passé, ce dialogue entre lui et Dieu. Mais, nous devons y réfléchir aujourd'hui. Est-ce que vraiment, parmi nous ce matin, quelqu'un peut lever la main et peut dire, pasteur, ça ne me concerne pas. Je suis un homme ou une fille très douce. Même si on me marche sur le pied, je ne me fâche jamais. Je ne m'énerve pas contre le monde, contre la société, la vie de tous les jours. Je suis quelqu'un qui est lent à la colère, je sais gérer. Je ne suis pas quelqu'un qui est irrité, non. Et je pense que c'est un sujet important. Parce que si on ne prend pas garde, eh bien on ne saura même plus compter les bienfaits de Dieu. On va, et ça c'est le point A, si on ne prend pas garde avec cette question d'irritation, qui est le thème, pourquoi es-tu irrité? Tiens, dites à votre voisin tout de suite, hein, on va travailler ensemble. Pourquoi es-tu irrité? Ou alors vous lui dites, parce que peut-être là tout de suite il n'est pas irrité, hein, mais vous lui dites, pourquoi il t'arrive d'être irrité? Dites-lui. Voilà. Excusez-moi, j'ai bien fait d'avertir que je suis menacé de rhume, mais le Seigneur m'aidera pour que je termine ce partage. Je dis, le thème c'est sur l'irritation, et nous allons voir deux ou trois grandes conséquences, et après je vais prier avec vous, puisque je suis tellement content de venir connaître votre église, et nous trouverons une occasion une autre fois, où je m'inviterai moi-même, pour un moment d'enseignement, ce qui est mon travail dans l'œuvre de Dieu. J'aime enseigner la parole de Dieu. Et la première conséquence de l'irritation, vous savez, c'est quoi? Parce que je n'ai pas vu que M. Robert. Coucou! Je n'ai pas vu que M. Robert. J'ai vu quelqu'un d'autre. C'est un psychiatre chrétien. Et il m'a dit, monsieur le pasteur, il y a tellement de conséquences médicales lorsque quelqu'un est irrité. Vous faites bien d'enseigner vos chrétiens sur cette question. Et il m'a dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je ne l'ai pas amené, mais j'ai fait des photocopies que je vais donner à votre pasteur et celui qui veut va faire la photocopie. Il m'a dit, je me suis rendu aux États-Unis, au State. Et J'ai un collègue là-bas qui est également médecin chrétien et qui a écrit dans un livre en anglais qui vient d'être traduit en français. Et je suis allé chercher, acheter même ce livre-là à CLC pour voir les conséquences médicales de la colère, de l'irritation, etc. C'est très subtil. Lorsque tu es irrité, fais attention. Il y a des conséquences médicales. Et dans ce livre, puisque ce médecin, ces deux, ils sont à la fois médecins et chrétiens, et croyants, serviteurs de Dieu, ils ont d'abord cité le Proverbe 6. Le Proverbe 6 dit que l'homme s'enlace par ses paroles. On attache l'animal par la corde, mais l'homme, eh bien, s'attache par la parole. Vous savez ce que vous dites? Dites, je vais me suicider. Eh bien, répète ça aujourd'hui, dimanche, demain, lundi, demain, mardi, mercredi. Vous allez voir, c'est une invitation que vous lancez à des esprits démoniaques de suicide. Et ils ne vont pas tarder à venir. Et je ne sais pas à quel étage vous dormez, si vous n'êtes pas dans un beau pavillon. Si un jour, vous êtes peut-être au deuxième, troisième, quatrième étage de votre immeuble, à force de dire, je vais me suicider papa, je vais me suicider maman, je vais me suicider mon frère, ma soeur, mon ami, etc. Un jour, vous l'invitez l'esprit de suicide en vous et vous allez rester comme ça, vous regardez la nature, il va venir en vous, il dit, jette-toi. Jette-toi. Regarde, la vie ne sert plus à rien. Il y a le cafard. C'est le dégoût de la vie, regarde les gens. Personne n'a de l'amour. La vie est noire. Ça ne sert à rien de vivre. Ça ne sert à rien même de se battre dans la vie. D'aller à l'école, de se former, de se lever tôt pour chercher un travail, de persévérer. Non, jette-toi et meurs. C'est comme ça qu'il y a des suicides. Et même si tu n'es pas dans un état, tu marches seulement. Tu arrives sur un pont, je ne sais pas, la Seine, à Paris. Tu verras quelqu'un audiblement qui va te dire, saute du pont. Audiblement, tu vas écouter. Ou tu es en train d'attendre le métro. Et puis, voilà, il y a le métro qui arrive. Tu es comme poussé. Saute. J'ai mon neveu aux États-Unis qui a sauté comme ça. Le fils à ma grande soeur. Première fille de mon père. Bah, un jeune homme bien dans sa peau. Bah, une discussion avec sa mère. Tout de suite. La maman dit, non, ne fais pas ça mon fils. Non, non, non. Il est énervé. Il va au métro, tellement énervé avec ce que lui a dit sa maman, qu'il a mis au monde. Le métro dit, ah, boum! Il est suicidé. Un enfant qui a un travail, belle voiture. Voilà, c'est comme ça. Tellement d'esprit de suicide qui vient de l'irritation, de l'énervement, etc. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas au milieu de nous ce matin parce qu'ils ont été irrités. À juste titre ou à faute, je ne sais pas moi, mais la mauvaise gestion de cette irritation fait qu'on peut même quitter une église. On peut même quitter les parents. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent parce qu'ils sont tellement irrités. Et ils disent, non, je me suis fâché avec mon père et ma mère. C'est pourquoi je souffre. Ils le disent eux-mêmes. Hein. Alors que papa et maman pouvaient bien s'occuper de moi, mais puisqu'on ne se parle pas. Donc voilà. Alors que Dieu avait déjà mis tout un dispositif autour de toi pour pouvoir t'aider et te soutenir. Mais la mauvaise gestion de l'irritation fait que on est aujourd'hui coupé, les liens familiaux sont coupés, les liens sociaux sont coupés. Il y a même des gens qui démissionnent comme ça à leur travail suite à une remarque d'un patron. Comme cela. Et puis après, c'est la logique de la clochardisation. Parce que quand tu ne travailles plus, tu n'as plus de revenus, tu ne peux plus payer ton loyer et tu vas être chassé et puis le surendettement, etc., etc. Mais à la base, il y a ce comportement dont nous devons parler ce matin qui est une attitude du cœur et c'est le thème, je le répète encore, de l'échange, du premier échange que Dieu a eu avec le premier homme né de femme. Et dans ce livre, il est dit, attention! Attention aux mots que nous prononçons quand on est irrité. Quand on dit par exemple, tout cela me soulève le cœur, j'en ai marre, ça donne des maux d'estomac, ça donne de l'ulcère. Je vous donnerai le titre du livre, vous allez le voir. Ils ont bien démontré le nom. Parce que vous êtes déjà liés aux mots que vous prononcez. J'en ai marre. Ça me soulève le cœur. Tu penses que tu parles comme ça? Eh bien, dans les jours à venir, tu auras un problème médical d'estomac. Tu auras de l'ulcère comme Ézéchias. Et tu pourrais même en mourir. Ah oui, tout cela m'étouffe. Ça me coupe le souffle. Eh bien, conséquence, il y a l'asthme et il y a le rhume de foin. Ça ne dit pas que tout l'asthme ou tout le rhume de foin vient de là. Mais ça peut aussi venir de là. De quelqu'un qui est énervé, je ne sais pas pourquoi, et qui va dire ce mot, il va se lier avec ce mot, et en démonologie, on le comprend très bien. Eh bien, tu invites eh bien, le diable à venir ou des démons à venir. Ils ont cité un exemple. Quelqu'un qui est énervé et qui dit, tout cela me donne des boutons. Eh bien, ne t'étonne pas en disant ça. Ça me donne des boutons, tu en as marre de la vie. Et tu vas être victime très vite des crises d'urticaire. Ça te donne des démangeaisons. Et ces médecins ont étudié ces choses. Mais ça vient d'où votre maladie? Votre crise d'urticaire? Et quand ils vous écoutent, ces psychiatres, ils vous mettent dans un fauteuil. Hein. Vous avez été très énervé ces jours-ci? Et vous êtes là, oui. Avec qui? Au travail? À l'école? Avec vos parents? Oui. Oui. Je comprends pas. Hein. J'ai fait tous les examens. Examen de sang. Monsieur le docteur. Il n'y a rien, on ne trouve rien. Mais pourtant, j'arrive pas, ça me crée de l'insomnie. Ça me démange de. J'ai une crise. Et quand les médecins ne trouvent pas cela par les examens, ils vous envoient chez les psychiatres. Il y a un problème. On n'arrive pas. C'est ça la psychiatrie. Chercher d'autres causes au-delà des examens de sang, au-delà des radios. Au-delà de ce qui se fait physiologiquement. On va chercher dans votre subconscient, dans vos relations sociales, de ce qui se passe dans votre mental, dans votre tête, comment ça se passe, votre comportemental. Et ils en arrivent à ce qui sont importants de lire. Ne lisons pas n'importe quoi, mais lisons des choses qui nous édifient. Aimons pratiquer les librairies chrétiennes. Voyons des thèmes qui sont là. Et qui sont mises à notre disposition. Il cite encore d'autres exemples. Il dit, moi je n'en peux plus, je n'en pouvais plus. C'est sorti tout seul, cette insulte, etc. Eh bien, ça donne une éruption allergique. J'étais muet de rage. Ça donne des maux de gorge. Ça donne même du bégaiement. Ça ne vous arrive pas? Vous êtes tellement énervé, vous n'arrivez pas à vous exprimer, vous bégayez. Alors que vous n'avez pas de bégaiement. Mais tellement que vous êtes énervé, vous voulez parler, mais vous n'arrivez pas. Quand vous êtes irrité, on dit, vous êtes irrité par exemple contre Elisabeth, ou contre Émilie, ou qui. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est elle là. Mais elle qui? Elle! Vous oubliez même le prénom de la personne. C'est un signe d'irritation. C'est elle là. C'est lui là. Parce que vous pouvez même prononcer son prénom. Parce que le fait même de prononcer le prénom vous énerve encore davantage. Tellement qu'il y a déjà des graines de haine qui commencent à naître en vous. Quand vous dites, je vais lui briser les reins. Ou je me brise les reins. Je dois quitter cette maison. Eh bien, vous avez des arthrites. Je n'ai pas pu me retenir. J'ai dit quelque chose. Après, ça donne des problèmes de vessie. J'ai perdu la tête. Ça me fait perdre la tête. Ça vous donne des céphalées, des migraines après. Etc, etc. Je m'en arrête là. Ce ne sont que des résumés. Et vous avez ici, je laisse ça au pasteur. Tout ça, vous pouvez vous faire la copie. Mais vous avez ici, ils ont dessiné l'être humain. Et ils disent que le problème, chez les chrétiens, pas de France, mais des États-Unis. Hein. Les États-Unis ont fait plein d'études, de toutes sortes, sur le plan de la sociologie ecclésiastique. Et ils disent que quand quelqu'un est énervé, eh bien, immédiatement,
Il y a une sécrétion dans les glandes depuis la tête. Même nos pupilles sont dilatées. Il y a une augmentation du taux de sucre dans le sang. Une élévation de la tension artérielle. Il y a des contractions musculaires qui se font. Un ralentissement des fonctions digestives et d'élimination. C'est-à-dire que ça peut vous donner même de la constipation, etc. Alors que vous mangez bien, bah ouais, c'est marqué. Hein. Après, le pasteur pourrait vous faire une copie. Vous allez voir tout cela. Parce que souvent, on prie pour rien. Hein. J'ai telle maladie, j'ai ceci ou cela. Moi, j'ai vécu une vingtaine d'années en France où je suis arrivé à l'âge de 19 ans pour faire mes études avant que je retourne en mission en Afrique. Je n'ai jamais tombé malade. C'est tout. Hein. Mais quand vous êtes contrarié, comme ceci ou cela, vous allez voir toujours des petites maladies comme ça, des contractions, de ceci, de cela. Hein. Les psychiatres appellent ça des maladies psychosomatiques, n'est-ce pas? Il y a tout ça. Il y a une gestion de la vie. Vous n'avez pas rendez-vous avec votre Bible. Vous ne couchez pas avec la prière. Et tout ça, ça amène des maladies. Il n'y a même pas une semaine, il y a un psychiatre qui a écrit sur le bonheur. Il a été invité au journal le plus important de France, sur la une. TF1. Et puis il dit, oui, j'ai trouvé un petit secret, j'ai dit ça à vos auditeurs. Quand vous voulez dormir la nuit, chaque jour, faites au moins une chose. Avant de vous dormir, prenez juste une seconde, pensez à trois événements de la journée qui sont positifs. Ne dormez pas sur du négatif. Ça va vous rendre heureux. Je dis, c'est ça leur secret du bonheur, là. Et on vient inviter quelqu'un comme ça pour le dire à la télé. Il ferait bien d'inviter un pasteur. Et leur donner les ABCD, les ABC du bonheur, ou le bonheur pour les nuls. Hein? C'est que le matin, tu vas dormir le soir, mais tu dis au moins merci à Dieu pour le souffle de vie, tu pardonnes à tous tes persécuteurs, d'ailleurs tu les bénis, hein? Et tu dis Seigneur à toi la vengeance, mon cœur est pur, et tu dors avec un cœur pur. Et c'est maintenant ces choses qui sont enseignées. Il dit, les gens sont obligés de prendre des somnifères pour dormir parce qu'ils en veulent, ils en veulent à leurs collègues, à la société, à la situation. On est énervé, on est découragé, peut-être qu'on n'a pas cherché, on n'a pas trouvé. On attend la réponse du logement, ça n'est pas venu. La CAF qui n'a pas versé des choses pour les enfants, etc. Les impôts qui viennent d'arriver, comment je vais remplir avec de la fausseté, hein? Voilà, décrire de mauvais trucs là, etc., etc. Non. Pense à des choses positives. Au moins deux ou trois. Tiens, je suis en vie. Tiens, je n'ai pas fait d'accident. Tiens, mes enfants sont bien. Il n'y a pas une mauvaise nouvelle qui est venue bouleverser. Il n'y a pas eu d'accident ménager. L'immeuble dans lequel j'habite ne s'est pas écroulé. Pensez à cela. Il y a ce petit cœur qui dit « Quand les bienfaits de Dieu » Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras qu'en adorant, combien le nombre est grand. Vous voyez, c'est cela. Et, oh là, je ne vois pas l'heure, il est 12h, c'est. Hein? Je dois pouvoir m'arrêter, hein? J'ai commencé à 30, non? Oh là là. Moi, je suis une pipette. Quand je pars comme ça, je pars comme si je me trouvais en Afrique alors que j'ai affaire à des Français ou dans l'horaire chronométré. Hein? Je m'arrête ou je continue 2 secondes? Bon, juste 2 secondes. Vous avez compris que l'irritation n'est pas une bonne chose. L'irritation peut amener au meurtre. Ça a fait l'objet du dialogue avec Dieu lui-même, l'Éternel, avec l'homme. Ça peut amener des conséquences médicales, etc., etc. C'est pour cela que David dit dans son « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas. Ne t'irrite pas. Dis
eh bien, David. Et Ecclésiaste chapitre 7, verset 9 dit « Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. » Et vous voyez toute l'histoire de la Bible, l'irritation a joué des mauvais coups à des hommes. Tiens, il y a un homme que j'envie. Il s'appelle Moïse. Je l'envie pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est un homme qui parlait à Dieu de bouche à bouche comme un homme parle à son ami. Moi, j'aimerais ça. Non, je ne peux pas. Hein. Vous savez, si tu marchais comme ça, vous êtes dans votre chambre, il y a une voix qui vient vous dire, c'est moi Dieu. Vous allez fuir pour sortir, oui. Mais la Bible dit que cet homme, il parlait à Dieu bouche à bouche. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas pu arriver à la terre promise? C'est l'irritation. Il conduisait un peuple qui n'arrêtait pas de murmurer, etc., de penser à, en Égypte, de critiquer Dieu. Et puis à un moment donné, il a dit, mais c'est pas moi que vous critiquez, hein. C'est Dieu, il accomplit cela. Mais à force de critique, il en avait marre que Dieu lui dit, parle au rocher. Il a frappé le rocher de colère. Et Dieu a dit, bien, tu as désobéi, tu n'iras même pas à la terre promise. C'est l'irritation. Vous lisez encore Moïse, Exode 17, mais allez dans 2 Rois chapitre 5. On nous parle d'un chef d'état-major des Syriens, monsieur de Naaman, qui est venu voir Élisée. Il avait la lèpre. Et Élisée lui dit, mais qui est venu? On a dit, non, c'est le chef d'état-major des Syriens. Qu'est-ce qu'il a? Il a la lèpre. Mais qu'il n'a qu'à aller au Jourdain, il va se jeter 7 fois dans l'eau et il va être purifié. Il est énervé. Il a dit, mais c'est qui ce pasteur? Je quitte depuis la Syrie pour venir jusque-là, pour le voir en Samarie. Il ne sort même pas pour me dire bonjour. Quelle impolitesse! Je suis chef d'état-major. Et il vous dit simplement d'aller me jeter 7 fois comme un rigolo. Il n'y a pas de fleuve en Syrie. Il n'y a que des fleuves ici en Samarie. Et il s'est énervé. Il voulait déjà sortir son PA. Et puis il y a ces gardes de corps qui lui ont dit, mais son pistolet automatique, ça se voit que tu n'as pas fait le service militaire. On doit le rendre obligatoire. Nous, quand on était arrivé en France, c'était obligatoire le service militaire. Voilà. Son pistolet automatique, et puis c'est quand lui ont dit, chef, mais le pasteur n'a pas dit quelque chose de mal. Vous avez la lèpre. Il vous dit simplement, allez vous jeter 7 fois. Mais faites-le. Faites-le. Voilà la difficulté avec les chrétiens aujourd'hui. Tu dis simplement avec les chrétiens, obéis à la parole de Dieu. Il s'énerve. Il dit, tu me juges. Dieu ne me juge pas. Dieu m'aime. Mais mon frère, marie-toi. Mon frère, laisse ça. Mais laisse le mensonge. Laisse la truanderie. Laisse la fausseté. Laisse l'alcool, laisse la vie mondaine, ça ne sert à rien. Où elles sont toutes belles? Choisis une seulement. Ils sont tous beaux, mais choisis un. Stabilise-toi. Tu n'es pas comme un oiseau qui doit aller becter dans toutes les fleurs. Non. C'est comme cela. La vie est ainsi faite. Moi, quand je vais en Martinique avec mon fils, non, on devient fou avec lui. Je dis, mais elles sont belles les Martiniquaises. On dit, maman, reste à la maison. On a besoin de se promener. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Et mon fils me dit, ah, c'est papa, t'as vu, c'est une bombe. Hein. Et c'est comme ça. Mais tu ne vas pas te marier avec 1 million de bombes. Quand ça va sauter. Déjà, il est le bon, ça peut faire sauter même le local du culte. Il faut que nous prions pour cela. On ne peut plus conseiller, on ne peut plus aider la peur que les chrétiens ont aujourd'hui. Regardez comment Naaman se fâche contre le pasteur Élisée. Il dit simplement, par la foi, je suis un homme de foi, messieurs, au nom de Jésus, allez faire cela. Le même Élisée avait dit à une femme, va, cherche des bouteilles, tu ramènes dans ta chambre, et l'huile ne manquera pas. C'est la prophétisation. Il prophétise. Et là, il va prophétiser sur cet homme. Il se fâche. Comment voulez-vous que nous fassions notre travail de pasteur? Nous l'avons dit, esprit de colère, esprit d'irritation, je te lis au nom de Jésus dans ma vie, sors! Sors! J'ai dit hier, il y a un petit garçon ou une petite fille qui m'a dit, ça veut dire quoi le verbe sigi? Sigi, c'est dans ma langue, ça veut dire sors. Hein? Esprit de colère, tu sors de ma vie. Si quelqu'un me fait une remarque, eh bien je l'accepte. Et je me réajuste. Si c'est vrai, je dis, je dois changer. Si c'est faux, et que c'est une accusation, eh bien, je continue mon chemin. C'est comme l'eau qui coule sur la plume d'un canard. Le chahut, la caravane passe. Mais si vous reconnaissez, réajustez-vous. Faites ce qui est là à faire, et vous ne pourriez que être béni. Alors, pas d'irritation. Dites à votre frère, pas d'irritation, dites-lui. Dites-lui, kiffe la vie, kiffe la vie. Tu as besoin de kiffer la vie. On doit parler comme les jeunes. Sois positif. Ne prends pas mal, clairement. Eh bien, hein, qui te sont faites. Hein. Je voudrais terminer seulement, même si je ne suis pas allé loin dans tout ce que j'ai prévu pour vous le dire, mais ce n'est qu'une introduction. Vous devez cultiver ces choses dans votre méditation personnelle. Vous voyez, Caïn, c'est la conclusion. Hein? Caïn s'est comparé. Il avait toutes les raisons de vivre le bonheur. Mais je voulais vous dire quelque chose, et je vous en supplie. Mais vraiment, je vous en supplie. Peuple de Dieu, Église évangélique de Pentecôte, le Flambeau, à Villeurbanne, si vous devez garder quelque chose de mon passage, et ça c'est comme une révélation de la part de Dieu que je vous donne, soyez heureux, mais pour être heureux, ne vous comparez pas.
Amen.
Ne vous comparez pas, je vous en supplie, au nom de Jésus.
Amen.
Dieu vous a désiré. Il a un plan pour chacun de vous.
Amen.
Un plan de paix, de bonheur, un avenir à espérer.
Amen.
Cherchez le fruit de l'esprit qu'aucun homme, aucune femme n'aime, ça s'appelle la patience.
Amen.
Attendez-vous à Dieu.
Amen.
Caïn s'est comparé. Il avait tout pour être heureux. Il n'était pas orphelin. Il avait un père qui s'appelle Adam, une mère qui s'appelle Ève. Il avait un métier, laboureur. Il avait des gibiers. Il ne mourait pas de faim. Mais qu'est-ce qui l'a pris jusqu'à aller tuer son frère? C'est quoi? C'est qu'il a comparé la bénédiction. Il a comparé l'appréciation. Au lieu de simplement se remettre en cause, voilà ce que les hommes ne veulent pas faire. Hier, nous avons prié pour le Centrafrique. On a prié pour un seul thème, que les chrétiens centrafricains se remettent en question, qu'on demande pardon individuellement, qu'on se réponde pour nos péchés, un point, un trait. Qu'on ne cherche pas à savoir à dire c'est la faute de tel. Que chacun se dise qu'est-ce que j'ai pu faire ou que je n'ai pas pu faire pour que le pays soit dans cet état. Ai-je même assez prié pour ça? Ou c'est ma vie de fétiche, de ceci, de cela qui a amené ces démons de destruction dans le pays? Est-ce que c'est ma jalousie? Est-ce que c'est ceci? Chacun balaye devant sa porte, dans le secret de sa chambre. Alors le Dieu de grâce fera grâce à une telle nation. Mais si nous nous comparons, au lieu de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, et de pleurer avec ceux qui pleurent, nous nous comparons, c'est terminé. Il y aura de l'irritation et ça va terminer. C'est dans cet esprit que j'ai choisi la conclusion qui n'est qu'une autre chose qu'une histoire. Connaissez l'histoire du roi et du jardin? Eh bien, je vous donne, et si ça vous intéresse, je l'enverrai sur le mail, hein, sur la toile, comme on dit. Et puis, vous aurez donc les liens positifs qui vous permettent d'avoir, eh bien, cette histoire. L'histoire du roi et du jardin, je demande votre concentration, parce que c'est mes mots de la fin. Le roi et le jardin. Il y avait un jour un roi qui avait planté près de son château toutes sortes d'arbres, de plantes et de fleurs. Son jardin était d'une grande beauté. Chaque jour, il s'y promenait. C'était pour lui une joie et une détente. Un jour, il dut partir en voyage. À son retour, il s'empressa d'aller marcher dans le jardin. Qu'est-ce qu'il remarqua ? Il fut désolé en constatant que les plantes et les arbres étaient en train de se dessécher. Qu'est-ce qui se passe ? Il s'adressa d'abord au pin, P-I-N, c'est un arbre. Autrefois majestueux et plein de vie, cet arbre. Et lui demanda ce qui s'était passé. Pain, pourquoi tu te dessèches? Et le pain lui répondit, écoutez bien, j'ai regardé le pommier. Et je me suis dit que jamais je ne produirais les bons fruits qu'il porte. Je me suis découragé et j'ai commencé à sécher. Le roi alla trouver le pommier qui lui aussi se desséchait. Il interrogea et celui-ci dit, en regardant la rose et en sentant son parfum, je me suis dit que jamais je ne serais aussi beau et agréable et je me suis mis à sécher. Comme la rose elle-même était en train de dépérir, il alla lui parler et elle lui dit, comme c'est dommage que je n'ai pas l'âge de l'érable qui est là-bas et que mes feuilles ne se colorent pas à l'automne dans ces conditions. À quoi bon vivre, monsieur le roi, et faire des fleurs? Je me suis donc mise à dessécher. Poursuivant son exploration, le roi aperçut, alléluia, une magnifique petite fleur dans un coin du jardin. Elle était toute épanouie. Alors il lui demanda comment il se faisait qu'elle soit si vivante alors qu'autour d'elle tout est desséché, il n'y a plus de jardin. Alors la petite fleur toute épanouie répondit au roi, majesté, j'ai failli me dessécher car au début je me désolais, je m'irritais. Jamais je n'aurai la majesté du pain qui garde sa verdure toute l'année. Je me suis dit, jamais je n'aurai ni le raffinement et le parfum de la rose. J'ai commencé à mourir. Mais, il y a toujours un mais qui nous demande de garder. Mais j'ai réfléchi. Et dans le malheur, réfléchi comme dit l'Ecclésiaste. J'ai réfléchi et je me suis dit, si le roi qui est si riche, puissant et sage, si le roi qui a organisé ce jardin avait voulu quelque chose d'autre à ma place, il l'aurait planté, parce qu'il en a les moyens. Si donc ce roi m'a planté, petite fleur, c'est qu'il me voulait, moi, tel que je suis. Et à partir de ce moment, j'ai décidé d'être la plus belle possible.
Amen.
Fin de citation. Et le pasteur qui a écrit cette belle histoire édifiante dit en commentaire, notre roi nous a placés dans ce monde, avec ce que nous sommes, à un endroit précis sur cette terre, dans sa création, à nous qui sommes ses enfants, d'accomplir la tâche qu'il nous a assignée avec les dons que nous avons reçus. Le panier de bénédiction, comme le chante un artiste congolais, circule encore. Quand quelqu'un est béni, dis-lui simplement, mon frère, ma soeur, je suis heureux pour toi.
Amen.
Que tu sois béni. Mais en vous, dites, mon tour viendra.
Amen.
Mon Dieu se souviendra de moi.
Amen.
Moi aussi, je me marierai.
Amen.
Et ça, je le dis toujours aux chrétiens. Ouais. Je vois souvent, il y a un mariage. Au lieu de se réjouir, et je vois toutes les sœurs, il y en a qui pleurent, il y en a qui sont énervées. Regardez-elle, elle n'est même pas belle et puis elle trouve un mari. Elle ne sait même pas s'habiller. Et moi qui suis belle là, mais je ne comprends pas les hommes. Ils ne savent pas choisir les hommes. Ils sont nuls. J'ai un métier, j'ai un appartement, j'ai une voiture, j'ai des diplômes. Je sais bien cuisiner. Et je sais bien faire d'autres choses qu'on ne peut même pas dire à l'église. Et les hommes ne voient même pas. Et celle-là, elle est complètement coincée, vilaine, laide comme une chenille. Et puis elle se marie. Je dis, pendant les mariages, je dis, toutes les sœurs qui ne se réjouissent pas du mariage sont condamnées éternellement, malheureusement, au célibat jusqu'à leur mort. Mais c'est la parole. Quand quelqu'un se marie, réjouis-toi. Alors tu attires la bénédiction de mariage sur ta vie. Combien de gens se sont rencontrés lors des mariages? Des connexions qui se font. Il y a une bénédiction nuptiale qui se fait. Il dit, ah, regarde comment elle est belle. Même si une femme est vilaine comme moi, lors de son mariage, elle est belle. Elle a un habit blanc, des trucs. Les hommes sont toujours vilains, mais les femmes, il y a toujours des trucs là, belles coiffures. Réjouis-toi. Mais si tu te mets à t'irriter, à t'énerver, tu ne t'attires pas, t'attires de la malédiction. Quelqu'un trouve du travail, réjouis-toi.
Amen.
Ton travail reviendra. Quelqu'un trouve un logement, réjouis-toi. Amen. C'est le secret de la vie. Ne t'irrite pas.
Amen.
Quelqu'un achète une voiture, tu dis, oh là là, j'aurai la plus belle. On a dit c'est le secret aux États-Unis. Aux États-Unis, tu es là, tu vois une grosse bagnole qui passe, tu dis, mais dis donc, moi je voudrais plus de dollars que ce gars un jour. Moi je veux rouler un gros cylindre plus que ça. Mais quand vous venez en Europe ou en Afrique, parce que c'est les Européens qui nous ont colonisés, tu vois quelqu'un qui passe dans sa belle maître, tu dis, oh, il n'a pas fait un accident. D'abord, c'est un voleur. Ça doit être un corrompu. Ce gars. On est énervé. Hier, on a dit ici, on était à 20h ici. J'ai dit aux Centrafricains, mais est-ce que vous cachez la vérité à vos frères qui prient pour vous? En Centrafrique, on était jaloux. Et j'aime bien ce que mon frère avait dit hier. On est des sorciers, on bouffe le cœur des gens, et puis maintenant Dieu permet que ça soit vivant devant les gens. Ton trafic, c'est ça. Vous voyez quelqu'un en train de construire son état, vous dites, il a dû fouler l'argent. Il a dû mettre cet argent là-haut. Vous voyez quelqu'un avec sa belle voiture, il sort comme ça là. Hein? Avec sa belle femme, il te dit, non, non, il n'a qu'à mourir. Regardez comment il. Et puis ils sont orgueilleux. Ils ne nous aident même pas. Mais est-ce que tu sais comment il a souffert? Comment il a galéré? Hein, pour avoir ça. Hein? C'est tellement important. On voit des gens qui viennent en Afrique, ils arrivent en France, à Paris, et puis à 4h du matin, 5h, les gens sont déjà levés, c'est métro boulot dodo. Hein? Et ils disent, oh, ah, vous travaillez comme ça en France? C'est comme si on cueillait de l'argent, hein, sur des pommiers, hein, pour leur envoyer en Afrique. Mais les gens galèrent, les gens travaillent. Il y a la sueur qui sort pour avoir de l'argent. Et quand on te renvoie, toi, tu penses que les gens sont dans une autre vie, tu les jalouses. Alors qu'ici, c'est plus qu'un service militaire. Nous, on a au moins 2 heures ou 3 heures pour quitter même Paris pour aller dans une banlieue, dans les transports en commun. Et c'est difficile. Tu es obligé comme ça de bourlinguer, de crapahuter, comme disent les militaires, du 1er au 30 pour avoir 1200 euros. Mais c'est ça la vie. Vous avez compris, et vous m'excuserez d'avoir pris beaucoup de temps, mais ça c'est l'avantage de ceux qui sont invités. Ils viennent, ils parlent jusqu'à minuit, ils sont déjà partis. Donc vous vous énervez comme votre pasteur. Là. On se lève à notre place. Je vais juste faire une prière que Dieu m'a mis à cœur. On se lève la main et nous allons prier. Depuis hier, j'ai constaté, c'est mon frère Eric qui m'a commencé à donner le témoignage. Il a grandi dans l'église, il a été baptisé là, il a fait ses études.
Les mains levées, s'il vous plaît, avant que je prie. Il est allé à Paris, il est revenu ici. Et quand tu parlais hier, il ne t'a rien dit. Il n'a rien dit. En fait, je me voyais en toi. Tu es venu en France, à l'âge de 19 ans, pour faire des études, pour être pasteur. Ce sont mes pasteurs blancs ici qui m'ont couru après pour me forcer à être pasteur. Mais tu es venu faire des études. Tu es un bon chrétien, c'est tout. J'essaye d'être bon. Mais je n'ai pas choisi d'être pasteur. Mais je sais qu'une chose. En venant en 86 en France, que je ne dois pas abandonner Dieu. Et je vous assure, un bon chrétien, c'est celui qui n'est pas le dernier. Il est parmi les premiers.
Amen.
À l'école. Et même s'il n'est pas parmi les premiers, il réussit toujours. Un bon chrétien, même s'il y a le chômage, Dieu a un travail pour lui.
Amen.
Même s'il y a des crises de logement, Dieu a un logement pour lui.
Amen.
Je voulais vous encourager. Même j'ai vu une petite fille qui a fait les offrandes ce matin. Je vois des jeunes qui servent Dieu. Je voudrais vraiment vous encourager. Moi, j'ai fait des études comme vous. J'ai terminé un troisième cycle. Il n'y a que trois cycles dans les universités françaises. Et j'ai traversé Lyon ici, Villeurbanne, Bourgogne-Jallieu. Je venais de Paris. Je venais à Grenoble une fois chaque mois. Parce que l'université Pierre Mendès France était en collaboration avec Paris là-bas. Pour faire un DSS en ressources humaines. Maintenant, on appelle un Master 2. Je n'ai jamais regretté. L'église est là. Depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant, as-tu pu dire à quelqu'un, ton ami, ton collègue, tu sais, Dieu existe, il t'aime, de l'inviter simplement à l'église. Dieu te garde en vie, c'est pour cela. Fasse au moins une évangélisation personnelle. Les mains levées, s'il vous plaît. Et gardez ce que je vous ai dit de la part de Dieu. Que l'esprit d'irritation ne soit plus au milieu de nous. Il y a tellement de choses là-dessus. Hein. Mais dans votre vie personnelle, cet esprit vous l'apportera. Et vous serez un homme sage. Une femme sage. Et les gens viendront à vous, mais pourquoi? J'ai marché sur son pied, mais il ne sait pas. Je ne dis plus qu'il ne faut jamais être énervé. N'avez pas de lenteur à la colère. Mais quand vous êtes en colère, dites pourquoi je suis en colère. Peut-être vous allez trouver la jalousie. Peut-être vous allez trouver quelque chose qui est négatif pour vous. Ce n'est pas parce que vous êtes en colère que vous avez raison. Caïn n'avait pas raison de jalouser son frère. Attention. Peut-être que vous serez dans le corps de Naaman, etc. Prions pour que Dieu se manifeste dans nos vies, nous éclaire, que chaque jour nous le connaissons un petit peu plus davantage, nous soyons dans son intimité. Parce que lui, eh bien, il ne ment jamais. Les mains élevées. Père, j'étends ma main vers tes enfants. Et le temps qu'ils ont pris pour venir dans ta maison ce matin, et le temps que j'ai pris, et peut-être que j'en ai abusé, tu le leur rendras. Mais je te prie que l'esprit d'irritation soit lié au nom de Jésus et sorte de leur vie. Que l'esprit de sagesse, car qu'est-ce que la sagesse, ce n'est qu'une connaissance intelligemment appliquée, ou l'application intelligente de la connaissance, que dans leur vie, ils ne s'emportent pas, ils ne s'olipinent pas, qu'ils ne soient pas des gens perpétuellement courroucés, susceptibles, au point de sortir de la bénédiction que tu as préparée pour eux, jusqu'à même commettre un meurtre. C'est toi, Jésus, qui as dit, si tu en veux à ton frère, alors que tu n'as même pas encore tué physiquement, mais tu l'as déjà tué. Nous ne tuions pas à la langue, nous médisons. Nous disons des faussetés contre nos frères et contre nos soeurs. C'est comme si nous les avons tués. Père, pardonne ton peuple ce matin. Ils sont comme des enfants qui boivent du lait de ta parole. Ils sont comme Marie assis à tes pieds pour recevoir cette bonne part que personne ne peut leur ôter. Je prie pour cette jeunesse qu'elle sache que le chemin qu'elle a emprunté, le chemin de l'église, le chemin de l'université, le chemin du travail, c'est le bon chemin.
car tu es le chemin. Qu'il puisse considérer comme David, que c'est un privilège, une joie de venir dans ta maison, de te servir, car c'est pour cela que tu les as gardés en vie. Trop de choses tuent des jeunes aujourd'hui. Des maladies sexuellement transmissibles et bien d'autres. Si tel est le cas, Seigneur, accorde ta grâce, une guérison miraculeuse. Ta grâce, c'est un temps de grâce, le culte. Et si quelqu'un est venu au milieu de nous ce matin, découragé, eh bien, qu'il soit fortifié. Au nom de Jésus, si quelqu'un est venu ce matin avec un dégoût de la vie, l'avenir est en noir. Père, tu sais toutes choses. Tu as un avenir de paix, un projet de paix, de bonheur, un avenir plein d'espérance pour tes enfants. Qu'ils retournent dans la maison avec une foi regonflée, fortifiée. Si quelqu'un est venu avec des doutes, des interrogations, Père, tu es la solution à toutes choses. Donne l'assurance dans les cœurs. Et que tes enfants puissent témoigner de l'alliance de ta présence dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Je t'ai ainsi prié. Je dis oui. 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 Je dis oui.
Je dis oui.
Pour la première fois de se lever pour que nous puissions les accueillir au Seigneur. On vous laisse la parole pour vous présenter et voilà, dire votre nom et voilà, et puis ce qui est sur votre cœur aussi.
Je m'appelle Ciel.
Je suis invité par Betty. Et je suis contente d'être ici. Merci de vous. On va passer à ce dernier.
Oui, moi c'est.
À ce joli bébé là. Bien à l'aise.
Moi c'est Madame Yannou Marie-Angèle. Je suis venue avec mon fils et ma fille. Ange réellement. Et je passe là Dorcas.
Amen.
Ouais, je suis contente d'être venue.
Où est le mari?
Et elle est là. Depuis hier, il est là. D'accord.
Ok.
Seigneur, merci. Nous lui étendons nos mains et dire comme Moïse, tu as passé cette parole dans la bouche de Moshe. Fais-lui ta face et sur nos bien-aimés et accorde-leur aussi ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Asseyez-vous. Donc, je vais appeler la sœur Phoebe. Voilà, pour celle qui est non chargée de communication. Voilà. Aussi, elle a des annonces à faire rapidement.
Bonjour. Alors, tout à l'heure, quand j'aurai fini, on fera la GE. comme c'était prévu, on a annoncé dimanche dernier l'Assemblée générale extraordinaire pour élire le conseil d'administration. Donc, ce sera assez rapide. Ne votent que les membres adhérents à l'association Le Flambeau. Ce sera juste un vote pour une liste. Hein. On vous proposera une liste de noms qui composeront le conseil d'administration. Vous êtes d'accord, on vote à la majorité. S'il vous plaît. Après le culte, il y aura la distribution des colis de l'épicerie sociale. Donc, il y a la partie sec dans la salle derrière et le frais dans la cuisine au frais. Donc, il y aura soit Donatien, soit moi, mais un de nous deux dans chaque, au sec et au frais. Ceux qui ont prévu de régler, bah, vous me réglerez dans la cuisine quand vous viendrez prendre la partie fraîche. Et pour ceux qui ne peuvent pas aujourd'hui, vous prévoyez pour la fois prochaine. Merci. Et si vous pouvez venir assez rapidement après le culte pour qu'on ne prenne pas trop. Demain, de 9h30 à 16h, il y aura la pastorale ici. Donc il y aura tous les pasteurs de la région qui se rencontreront ici pour la pastorale.
Oui, c'est la FEPEF. Voilà, c'est nous faisons partie de la FEPEF. Qui est divisé en régions, donc c'est la région 4. Donc les pasteurs du Chandelier, Saint-Étienne, tout cela, voilà, donc ils viendront ici voilà, pour faire la pastorale voilà, à partir de 9h30 jusqu'à 16h. Voilà. Et puis le thème, c'est la vision apostolique, voilà, c'est Christian Rivière et Pascal Pounas qui seront nos orateurs. Voilà, donc pensez à ça dans vos prières, pour que Dieu puisse nous bénir aussi.
Ensuite, ce vendredi de 19h30 à 20h45, comme d'habitude, il y aura la réunion d'études bibliques. En tout ce mois-ci, d'enseignement apporté par le frère Edgar. Donc ce vendredi, n'oublions pas de venir. Le frère Brice dira un mot tout à l'heure concernant Saint-Laurent-du-Pont, concernant la...
Voilà, je vais le dire maintenant. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bon, ça concerne tous ceux qui sont inscrits pour la convention de jeunes qui aura lieu les 7, 8 et 9 juin prochain. Vous avez donné 30 euros pour les inscriptions. On n'a pas mis dedans les frais de transport et les frais de nourriture, voire d'hébergement. Les 30 euros concernent juste l'inscription et la place où il faut placer les tentes. L'église, pour ne pas dire le groupe de jeunes, va prendre en charge une partie de la nourriture et le transport. Alors pour cela, on ne vous demande pas de donner les 12 euros tout de suite. Le jeune qui s'inscrit à 30 euros va sortir 12 euros, c'est-à-dire avoir 12 euros comme argent de poche pour une journée, voire deux demi-journées. Le petit déjeuner qui est à 1 euro, sur deux jours, sinon deux demi-journées le matin, et 5 euros, 5 euros, ça fait les 12 euros. On ne vous les demande pas maintenant, il faudrait seulement que vous les ayez sur vous. Pour le reste, l'Église va prendre en charge. C'était seulement les précisions que je voulais faire. Donc pensez à avoir 12 euros sur vous. Voilà, je vous remercie.
Clair pour tout le monde.
Oui, moi j'ai
pas compris. Alors, les 30 euros, c'est pour l'inscription, pour participer et pour l'emplacement de la tente. Le groupe de jeunes prend en charge la location des tentes, le transport, essence, péage, je crois qu'il y a un péage, et une partie de la. Si tu veux payer ton repas, en fait, sur les repas sont à 5 euros et le petit déjeuner à 1 euro. Donc, vu qu'on partira peut-être lundi après le petit déjeuner, donc il y aura, enfin, normalement, on arrivera samedi après le petit déjeuner. Donc le petit déjeuner du dimanche et du lundi, ça te fait 2 euros. Tu as 5 euros le dimanche, ça fait 12 euros.
Et le samedi,
le samedi aussi, tu as 5 euros, ça te fait 22 euros.
Donc ça fait samedi soir. Dimanche toute la journée.
Samedi midi même, parce qu'on ne sait pas encore si on prendra Si on compte le samedi midi, le samedi soir, ça fait 10 euros. Dimanche midi, dimanche soir, ça fait 20 euros. Plus les deux petits déjeuners, ça fait 22 euros.
Voilà, donc 22 euros.
Voilà, que tu devrais payer normalement. Mais le groupe de jeunes prend encore en charge 10 euros sur les repas. Donc ça veut dire que c'est pour ça qu'on demande que du coup, ne restera à notre charge que deux petits déjeuners et deux repas en fait. Soit 12 euros, que vous pouvez régler jusqu'à ce qu'on arrive là-bas. Soit vous, si vous les avez en temps, vous les donnez, sinon vous les donnerez quand on sera là-bas.
D'accord, mais parce que comme moi je me suis déjà inscrite avant, moi j'ai donné 55 euros.
Donc toi tu as tout payé déjà, tous tes repas et ton inscription, c'est ça?
Et voilà, s'il y a des précisions à demander, à la fin, approchez le frère Brice. Voilà, compte tenu pour du temps, voilà, nous voulons avancer.
À part le cas spécifique des Lili, pour tous les autres jeunes, est-ce que c'est bon? Oui. Dernier point concernant le nettoyage de la salle de culte. Alors, il a été fait un calendrier en alternance avec l'église congolaise. Donc, c'est une fois dans le mois. Donc, nous, on nettoie une semaine dans le mois. L'église congolaise nettoie aussi une semaine dans le mois. Donc, ça, c'est le calendrier avec notre tour et le tour de l'église congolaise. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que on n'a pas d'équipe de nettoyage en place. On n'a pas d'intendant. Il y a des personnes qui le font volontairement, mais... ces personnes, elles, sans citer personne, elles commencent enfin, un petit peu à...
s'épuiser.
Voilà, à s'épuiser. Voilà, comme si c'était leur devoir, alors qu'en fait, elles ne le font que volontairement. Donc, on va faire des photocopies du calendrier qu'on va afficher pour que chacun sache quand ce sera notre tour. Là, par exemple, le prochain tour, ce sera le 7 juin, et après le 5 juillet, après le 2 août. C'est juste une fois dans le mois. Donc, on a un petit calendrier, comme ça, des volontaires pourront s'inscrire. À défaut de volontaires, malheureusement, ce sera des désignations d'office pour venir nous voir. Voilà. Parce que... ouais. Ici, c'est notre maison à tous.
Amen.
C'est la maison de notre papa. Donc, personne n'aime que la maison de son papa. Donc, on va faire tous un effort pour venir nettoyer quand ce sera notre tour.
Amen. Voilà. Complément d'information. Nettoyage, liste volontaire du nettoyage de la cour. Donc, ma soeur Michel, quand elle était ici, elle était très dynamique, hein, elle choisissait. Donc, vous voyez un peu l'état de la cour. Voilà, donc ça va interpeller voilà, tout citoyen que nous sommes. Amen.
Amen.
Voilà, que nous devons nettoyer la cour aussi. Voilà, ici, on voit, c'est bien propre, bien. Voilà, mais pensons à la cour. Voilà. Donc, à cet effet, il y a aussi un planning, enfin, une feuille qui va être affichée et que des volontaires aussi se manifestent par rapport à ça. Et puis enfin, dans le programme du mois de mai, on n'a pas précisé quel dimanche on prend le repas. Voilà. Donc c'est bien, parce que dimanche prochain, on aura Papy Claude. Voilà. C'est très pris par Ebenezer. C'est bien qu'on soit ensemble. Gloire à Dieu.
Amen.
Voilà. Donc dimanche prochain, voilà, nous ferons la Sainte-Seine. Ça n'a pas été précisé.
Après, si concernant l'intendance, ça consiste en quoi? Ça consiste à faire répertorier tout ce dont on aurait besoin dans l'église, que ce soit d'un aspirateur, des balais, des cuillères, pour les repas et tout ça, de tout ça. Donc si quelqu'un, on n'a pas d'intendant, mais si quelqu'un se sent de prendre cette responsabilité, elle peut s'approcher soit du pasteur, soit du frère Eric, et pour pouvoir prendre ça en charge. Voilà, merci. On passe à la GP.
On va inviter notre soeur Grace, qui est la secrétaire, voilà, pour la suite. Soyez patient, voilà, ça n'est pas trop long. Il faut faire les choses selon les statuts, et voilà, et c'est fait.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Juste avant de passer au sujet de l'AG, juste une petite précision concernant le groupe des sœurs. On a eu notre réunion hier qui s'est très bien passée, merci Seigneur. On était On était nombreuses et on espère que la prochaine fois, on sera encore plus nombreuses que ça.
Amen.
Juste pour vous dire que la prochaine réunion est fixée au 7 juin, au samedi 7 juin. Cette fois-ci à 16h au lieu de 15h. Et la réunion aura lieu chez notre sœur Rosa. Donc on a décidé tout ensemble, comme c'est le dernier mois de l'année scolaire, entre guillemets, de faire une rencontre conviviale chez notre sœur Rosa pour partager ensemble voilà, sur un thème qui sera déterminé, mais que ça soit aussi un moment convivial de partage. Donc chacune d'entre nous ramènera un petit quelque chose qu'elle aura à cœur. Donc ça sera chez la sœur Rosa. On vous donnera l'adresse précise pour celles qui ne connaissent pas. Et puis donc, toutes nos sœurs, hein, maman ou pas maman, mais toutes les sœurs de l'église sont conviées à cette rencontre chez la sœur Rosa le samedi 7 juin. Donc nous allons passer maintenant au sujet de la... C'est une assemblée générale ordinaire et pas extraordinaire comme on l'avait annoncé. Il n'y a pas de modification des statuts. On ne prend pas de décision qui déroge fondamentalement à la situation. Donc c'est une assemblée générale ordinaire. Je vous explique le but. La dernière fois, le 6 avril, quand on avait fait l'AG, on avait élu en fait des membres du bureau, alors qu'on aurait dû élire des membres d'un conseil d'administration qui, eux, auraient dû désigner des membres de bureau. Donc on a fait les choses, enfin, pas à l'envers, mais pas tout à fait dans le droit chemin. Alors qu'habituellement, on a un conseil d'administration un peu élargi qui se réunit à chaque fois. Donc, on a décidé de refaire les choses dans les règles. La feuille de convocation donc, a été affichée sur la porte. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va considérer que les membres qui ont été élus le 6 avril dernier démissionnent, entre guillemets. On considère que ces membres démissionnent, des membres du bureau. Donc aujourd'hui, on va élire un conseil d'administration élargi qui va être composé d'un certain nombre de personnes, c'est-à-dire des membres de bureau, mais des membres aussi qui sont responsables de certaines activités de l'Église que vous connaissez tous déjà et qui viennent déjà à nos réunions. Donc c'est juste pour régulariser les choses. Enfin, ces membres que je dis entre guillemets ont démissionné, ce sont les mêmes qui vont être réélus dans ce nouveau conseil. Hein. C'est juste administratif. Donc suite à notre dernier échange, on a décidé que le conseil d'administration, en fait, qui sera élu par l'Assemblée générale qui est ici réunie et donc dont les membres sont en train d'émerger, ce conseil d'administration va lui-même en fait regrouper des membres du bureau et des membres du conseil d'église. C'est-à-dire on a un conseil d'administration élargi dans lequel on a des membres du bureau, des membres du conseil d'église et certains autres membres qui sont les responsables des activités de l'église. Donc les membres du bureau, les personnes que l'ancien conseil d'administration propose, c'est ceux pour lesquels vous avez voté il y a deux mois, même pas deux mois. Donc le président, c'est le pasteur Hubert, la secrétaire, c'est la sœur Grace, le trésorier, c'est le frère Eric, et la vice-trésorière, c'est la sœur Claudine. Les membres du conseil d'église, qui aujourd'hui sont... composé en fait de notre pasteur principal, le pasteur Hubert, et de notre diaconesse, la sœur Frida. C'est aujourd'hui la seule diaconesse qui a été véritablement reconnue par les responsables de l'église du Chandelier. Donc c'est elle que nous souhaitons maintenir en tant que diaconesse dans notre conseil d'administration.
Conseil d'église.
Oui, conseil d'église dans le conseil d'administration. Et donc les autres membres que nous souhaitons rajouter et qui sont responsables des autres activités de l'église et qui assistent habituellement à nos réunions. Donc on aura le responsable du groupe de jeunes, ce que c'est les personnes qui sont proposées. Le responsable du groupe de jeunes, le frère Brice Boitapé. La responsable du département enfants, la sœur Emmanuelle Boitapé. Ce sont des propositions, vous allez nous dire si vous êtes d'accord ou pas. Donc la responsable du département enfants, la sœur Emmanuelle Boitapé. La responsable du groupe de dames, la sœur Christine Cramaud. Le responsable du groupe de louanges, le frère Éric Danhaut, qui est lui-même déjà trésorier. Et les deux responsables de l'association Corneille de Bienfaisance, le président, le frère Donatien, et la trésorière, la sœur Phébé. Et donc... Pardon ?
La secrétaire, la sœur Stella.
Ah oui, pardon, la secrétaire, la sœur Stella. voilà, qui n'est pas présente aujourd'hui. Et donc un département qui est resté en point d'interrogation, c'est le département intendance pour lequel nous n'avons pas de proposition ni de volontaire pour l'instant. Donc si parmi nous il y a quelqu'un qui se sent, qui veut être volontaire pour ce département de l'intendance, nous accueillerons favorablement ça. La sœur Rosa se propose. Merci Seigneur. Nous avons donc... La feuille de présence a circulé.
Moi, je ne l'ai pas eu. Est-ce que tu as fait des...
Oui. Qui c'est qui veut... Donc, est-ce que pour vous c'est clair? Oui.
Je n'ai pas compris. Conseil d'église, conseil d'administration, bureau. Je n'ai pas compris le découpage. Qui est dans quoi?
Alors, on a un conseil d'administration.
Les mots qu'elle a cités là, c'est bon quoi, le conseil d'administration.
Le responsable d'activité là. Oui, c'est le conseil d'administration. C'est un organe de direction de l'association, le conseil d'administration, dans lequel on a le bureau, le conseil, le bureau pour la partie purement administrative, le bureau pour la direction spirituelle. Et les différents responsables d'activité pour la partie, on va dire, sociale.
Dans le conseil d'église, il y a qui?
Dans le conseil d'église, il y a le pasteur Hubert et maman Frida.
Plus maman Frida.
Oui. Oui, mais on n'a que ces deux-là qui sont... Plus.
Aujourd'hui, ce que la sœur dit, c'est ce qu'il faut faire. Dans le conseil d'église, on verra plus tard. Parce que j'avais fait des consultations, c'est tout à fait normal, parce que dans Proverbe, c'est marqué que le salut vient du grand nombre de conseillers. Voilà. Donc j'ai demandé à certains frères, il y a un frère qui m'a sorti une structure impeccable, qui a été admise par le bureau quand on s'est réuni. Bon, mais maintenant nous prions pour la suite. Donc on vous tiendra au courant en temps utile.
Le conseil d'administration, et notamment le conseil d'église, peut effectivement s'élargir avec le temps. S'il s'élargit et que nous avons un ancien ou un pasteur qui l'intègre du fait de la décision du conseil d'administration, on refera une AG succincte comme celle-ci et on validera l'intégration de la nouvelle personne qui intègre le conseil d'église.
Super.
Si tout le monde est d'accord avec les propositions qui sont faites, et s'il n'y a pas de questions ou d'observations particulières, on va procéder à un vote commun et pour valider cela. Le vote ou une question? Il y a une question. Oui.
Et le conseil d'administration se réunit quand?
Ah, oui, on avait proposé que le conseil d'administration se réunisse tous les 3 mois.
C'est ça, hein?
Pour le moment, c'est le dernier dimanche du mois.
Non, ça, le dernier dimanche du mois, ça, c'est la réunion du bureau. Ce n'est pas forcément la réunion du conseil d'administration. La réunion du bureau, ça, c'est autre chose. Pour l'instant, c'est le dernier dimanche du mois, ça peut changer ou pas. Mais le conseil d'administration, lui, serait censé se réunir une fois tous les 3 mois. Parce que c'est un conseil élargi où il y a plusieurs personnes, donc ça serait une fois tous les 3 mois. Pour faire le point sur le fonctionnement de la vie de l'Église, des différents départements, etc. D'autres questions? Bon, on va procéder au vote, alors. Sur les différents noms qui ont été donc proposés, à vous le vote. Quelles sont les personnes qui sont pour donc toutes ces propositions-là? Levez les mains, s'il vous plaît.
C'est ceux qui ont mis leur nom sur la feuille hein, qui votent. Hein.
Moi, j'ai pas les...
Oui, mais ça va passer. Pardon, s'il vous plaît, je vais compter. Brice. Hein? Oui, on vote. On fait un vote commun. Brice, tu votes là?
Oui, je vote.
1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20. 20, est-ce que j'ai bien compté? 20. Non, mais Elisabeth, tu votes pas? Tu votes ou... Non, mais tu peux t'abstenir, c'est une question. Alors, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pourquoi j'ai compté là encore?
Bon, c'est quelqu'un pour l'aider à compter.
Mais moi, je compte. Pardon, s'il vous plaît.
Eric, tu votes ou pas?
Arrêtez d'écrire, s'il vous plaît. On va voter, ah, oui, parce que sinon, on va
vote
pas.
Ou pas. Bon, on a plus mal, je vais compter.
Merci, maman.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
C'est ça. Sachant qu'on est 39 membres actifs.
Dans 30 secondes. Ouais,
c'est 40 divisé par 2. Ok. Donc on considère que ce nouveau conseil d'administration élargi est adopté à la majorité des voix. Merci à vous pour votre patience. C'était tout. Le procès verbal donc, de cette nouvelle AG sera établi. Laissé à disposition des membres qui souhaitent le consulter, envoyé à chacun des membres du conseil d'administration. Donc voilà chacun de nos référents désormais dans l'organe de direction de l'Église. Si les membres de l'Église ont des questions, des suggestions, vous savez à qui vous référez donc sur les différents sujets. Et merci à la sœur Rosa pour sa proposition qui nous enlève une épine du pied, si je peux me permettre de le dire. Et voilà, merci à tout à chacun, que le Seigneur vous bénisse.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, on va se tenir debout pour mettre un point final à cette rencontre. Parce qu'après, il faut que le pasteur aussi regagne Paris. Voilà, donc on ne va pas trop le retenir. Voilà, il met son épouse. Parce que la feuille de route, voilà, il n'a pas dit un mot, mais simplement, le Seigneur veut qu'il soit dans le corps de Christ. Bon, il était au ministère de l'Intérieur, il a apporté ses talents, voilà, son dévouement pour le peuple centrafricain et nous bénissons le Seigneur. Voilà, mais qu'on continue à prier pour lui parce qu'on continue toujours à servir dans le corps de Christ. Maintenant, si quelqu'un veut l'approcher après pour dire que mais, tu avais la casquette du ministère de l'Intérieur, que c'est passé, il peut partager cela. Mais s'il plaise au Seigneur qu'un jour encore, voilà, s'il veut nous le prêter encore, voilà, il pourra encore passer ici, surtout pour nous enseigner dans les voies du Seigneur. Parce que moi, c'est comme ça que je l'ai vu chez Samuel Peter Schmidt. Parce que toutes les pastorales, il intervenait aussi, il apportait aussi sa pierre aussi. Et voilà. Donc, on va demander à son épouse, voilà, c'est ce que je cherchais. Voilà. Aquila, c'est précis, c'est là ensemble. Voilà, donc elle s'appelle Elisabeth. Voilà, on va se joindre à sa prière. Elle va nous bénir encore et puis aussi confier les défis de la semaine qui commence demain pour nous. On se joint à sa prière.
Père, nous te bénissons pour ta présence parmi nous. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as pris de nous tes enfants et parce que nous faisons partie de ta bergerie. Je te bénis, Seigneur, pour le culte. Je te remercie parce que cette église, Seigneur, eh bien, c'est toi qui l'as posée ici. C'est toi qui as appelé ton serviteur. C'est toi qui as appelé chacun des membres de cette église. Et je te bénis pour cela. Je te prie de sceller, mon Dieu, tout ce qui a pu être fait en ce jour. Tous les votes, toute la partie administrative de l'église. Parce que l'administratif aussi t'appartient. Je te bénis, Seigneur, parce que c'est toi qui donnes l'intelligence à tous les chrétiens, mon Dieu, de cette Église, afin qu'elle puisse grandir jusqu'à ta venue, jusqu'à ton retour éternel. Merci que tes brebis, Seigneur, égarées puissent entendre ta voix et venir, Seigneur, dans ta bergerie qu'est cette Église. Oui, Père, sois glorifié et sois béni parce que tu es le maître de ces lieux. Eh bien, Seigneur, merci encore pour les lendemains de cette Église qui t'appartiennent. Je te loue, Seigneur, parce que le meilleur encore est pour demain.
Amen.
Pour cette église. Je te loue, Père, encore parce que tu as encore un projet de bonheur, mon Dieu, pour cette église. Et nous allons voir ta gloire. Chacun des membres de cette église verront ta gloire parce que tu es Dieu, tout simplement. Et parce que tu fais les choses en ton temps. Oui, Seigneur, sois béni, glorifié. Et béni, Seigneur, en tout lieu, en tout temps. Et que là encore, nous allons nous séparer. Eh bien, permets, Seigneur, que ton nom soit élevé dans la vie de chacun d'entre nous durant toute cette semaine. Et que nous puissions nous retenir devant ta face, nous tenir devant ta face et te prier et te remercier. Et non seulement, Seigneur, te prendre la tête, mon Dieu, avec tous nos problèmes, mais tout simplement te dire merci, Jésus.
Amen.
Merci parce que tu es Dieu, celui qui était à la croix pour chacun de nous. Et je te bénis, Seigneur, pour tout. Gloire à toi, Père. Amen.
Amen.
S'il vous plaît, j'ai oublié. Dimanche prochain, il y a le pain. Voilà, parce qu'on a changé la donne. Donc ça sera dimanche. Donc, prévoyez pour prendre votre pain dimanche prochain. Voilà, bon retour. On se salue les uns les autres. Il n'y a pas d'incendie. À bientôt.
Je sais pas quoi dire, pourquoi je vais arrêter.